politique, Richard Labézière.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Géopolitique consacrée aujourd'hui à la défense et à la sécurité de la France après la publication du livre blanc dévoilé le 17 juin dernier par le président de la République. Sur fond de contraintes budgétaires fortes, le livre blanc préconise une sévère cure d'amaigrissement de l'armée française avec la suppression de 54 000 postes civils et militaires sur 320 000 d'ici 6 ou 7 ans. Définissant de nouvelles menaces et faisant du renseignement une priorité stratégique, le livre blanc fait passer de 50 à 30 000 le nombre de soldats de l'armée de terre susceptibles d'être déployés à l'extérieur en 6 mois. Nombre de programmes sont revus à la baisse. Au lieu de livrer une frégate FREM, frégate multimission, tous les 7 mois, la loi de programmation militaire qui suivra le livre blanc pourrait aboutir à une cadence de seulement 10 à 12 mois. Plus question de mettre en chantier un deuxième porte-avions, moins d'avions rafales pour l'armée de l'air et l'aéronaval. Pour autant, pas de déclassement en perspective, réplique le gouvernement. La France restera l'une des 4 puissances militaires globales de la planète, avec les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, affirme le ministre de la Défense Hervé Morin. Par ailleurs, le livre blanc salue une rénovation transatlantique et une rénovation de la relation entre la France et l'OTAN. Alors sur ces différents dossiers, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Michel Rocard, Premier ministre de 1988 à 1991, un Premier ministre qui fut certainement le plus attentif de toute la Ve République aux questions du renseignement et des services de renseignement. Michel Rocard, bonjour.
Bonjour.
Ajoutons que vous avez publié le 18 juin dernier dans le Figaro une tribune où vous expliquez les différentes raisons pour lesquelles, selon vous, un deuxième porte-avions français est absolument nécessaire. Avec nous également le général François Mermet. Mon général, bonjour.
Bonjour.
François Mermet, vous avez été directeur général de la DGSE, les services français de sécurité extérieure. Vous êtes aussi ancien membre de l'état-major particulier du président de la République et ancien directeur des centres d'expérimentation nucléaire. Alors, une première question, Michel Rocard, qui touche à l'actualité plus récente et au-delà de la bavure de Carcassonne. Quelle lecture faites-vous de la démission du général Bruno Kuch, le chef d'état-major de l'armée de terre? C'est assez peu courant dans l'histoire de la Ve République de voir un chef d'état-major de l'armée de terre démissionner dans ces conditions.
Oui, c'est très peu courant, c'est vrai. Et ça veut dire que le général Kuch a un grand sens de l'honneur et de la dignité. Je veux rendre hommage à cela. C'est très navrant. Le général Kuch était un officier extrêmement respecté. Je crois que sa démission est dommageable. Et cette démission est liée à une disproportion dans le commentaire du président de la République. L'incident de Carcassonne est gravissime, enfin il est terrifiant, mais il est clair qu'une erreur sur les empaquetages de munitions à blanc par rapport à des munitions guerrières n'est pas une erreur qui dépend du général en chef, et moins encore du président de la République. Le fait d'avoir, de la part du président de la République, mis en cause toute la chaîne de commandement est probablement excessif. Que le général Kuch en ait tiré le fait que sa dignité était en cause, c'est un peu la moindre des choses, et je ne pense pas que sa décision est critiquable, mais elle est très regrettable, et je crois qu'il faut revenir à plus de simplicité et accepter l'idée que l'erreur humaine se place partout et qu'il faut la traiter à son échelle sans jamais la dramatiser.
Michel Rocard, on l'a rappelé, vous avez défendu l'option d'un deuxième porte-avions français. On va en reparler, bien sûr, mais cette option n'est pas du tout dans la ligne du livre blanc qui préconise au contraire des réductions d'effectifs et de programmes. Alors, quel est votre commentaire, Monsieur le Premier ministre, sur ces réductions d'effectifs et de programmes et par conséquent sur, on peut dire, la philosophie générale et globale du dernier livre blanc?
Le dernier livre blanc, il fait 320 pages, c'est un travail tout à fait remarquable, et pour tout vous avouer, je ne l'ai pas encore complètement lu. Donc c'est...
Mais en tout cas, sur les... commenter comme ça. On connaît les grandes options.
Oui. Je voudrais bien demander qu'on ne mette pas seulement l'accent sur des restrictions. Nous sommes en période budgétaire un peu difficile, la restriction est un peu nécessaire. Nous sommes surtout dans un monde que la guerre, la vraie, menace moins. Et comme il est probable que nous aurons moins de guerres interétatiques, de guerres classiques à livrer, le fait de réduire ne me paraît pas, moi, scandaleux. Ça correspond à une amélioration de l'état général de paix dans le monde. Je veux commencer par saluer, avant de venir au reste, les grands progrès sur lesquels ce livre est blanc. Il y a beaucoup à dire, je vais y venir à propos du porte-avions, et pas seulement. Mais je veux saluer les 3 progrès, à mes yeux, majeurs, que ce livre blanc permet, parce qu'ils étaient essentiels. Le premier, c'est le constat que notre sécurité s'accommode mal de frontières entre l'intérieur et l'extérieur. La reconnaissance de ce que notre sécurité est absolument globale et que les mêmes missions, les mêmes tâches ont un aspect défensif, un aspect offensif, un aspect intérieur à nos frontières et un aspect extérieur était tout à fait nécessaire. Ça va prioriser l'interarmé et ça affecte bien l'intégration de la sécurité intérieure à la sécurité nationale. Le deuxième élément, c'est la promotion au premier rang du concept de sécurité, y compris celle des tâches de sécurité, je pense à la lutte contre le terrorisme, qui relève de la police et pas de l'armée. On a toujours vécu une séparation presque absolue entre ces deux grands corps de l'État, ces deux services de l'État, qui s'ignorent complètement, ne se connaissent pas, ne se rencontrent jamais, ne travaillent pas ensemble. Or, maintenant, ils ont des tâches largement communes. Le fait de le dire, le fait de supposer qu'il y a au moins quelques endroits où l'on pense et où l'on ordonne en fonction de l'un et de l'autre, est un progrès tout à fait considérable. Et le troisième élément positif que je veux saluer, vous l'avez fait vous-même dans la présentation, c'est qu'en effet, on insiste beaucoup sur le retard traditionnel en France, c'est très dommageable, sur le renseignement. La France dépense pour son renseignement, que je sache, à peine un gros tiers, une petite moitié de ce que mettent les Allemands, à peine le quart de ce que mettent les Anglais, et moins de 10% de ce que mettent les Américains. Alors avec les Américains, la proportion de population n'y est pas, mais nous ne sommes pas dans la proportion des populations. Cet effort de rehaussement du renseignement, alors que c'est l'outil majeur pour la plupart des problèmes de sécurité d'aujourd'hui, me paraît être une bonne chose. Reste qu'il y a des problèmes non résolus, on y viendra dans un instant.
Général Mermet, même question qu'à Michel Ancart, comment vous appréciez les options générales, les grandes perspectives ouvertes par ce dernier livre blanc sur la défense et la sécurité de la France?
Alors, il y a, comme disait Michel Rocard il y a un instant, il y a de très bonnes choses. En particulier, moi je suis très heureux de voir que la priorité est donnée enfin au renseignement, déjà ne serait-ce qu'avec la création de cette fonction connaissance et anticipation, qui n'existait pas dans le précédent livre blanc, et avec un effort sur les moyens spatiaux. C'est d'autant plus méritoire qu'on est dans un contexte budgétaire très sévère pour le ministère de la Défense. Alors, je crois que c'est très important parce que j'ai lu qu'il y avait beaucoup de critiques sur ces dépenses dans le domaine spatial, dans le domaine du renseignement. Bien sûr, quand l'argent diminue, chacun défend son précaré. Mais pour la France, compte tenu des nouvelles menaces, dans un monde de plus en plus incertain, l'effort de renseignement, l'effort de connaissance est absolument capital. D'autre part, la France revendique l'ambition d'être une nation cadre, d'être capable de diriger une opération, globalement une opération dans le cadre de l'ONU, de l'OTAN ou de l'Union européenne. Donc pour cela, il est indispensable d'avoir ces outils de renseignement qui permettent de connaître, d'anticiper. Et il y avait une formule qu'on avait utilisée à l'époque lorsque Pierre Joxe, en 1993, avait lancé un effort aussi bien de l'organisation du renseignement militaire, puisqu'il a eu à l'époque la création de la DRM, et également un effort dans le domaine spatial. Et on disait dans le domaine spatial, pour une partie du spatial, tout au moins dans l'observation, on disait voir ensemble pour comprendre ensemble afin d'agir ensemble. Alors ceci c'est vrai au niveau national et c'est encore plus vrai au niveau européen. Donc c'est un axe qui est un axe fédérateur au niveau européen.
Géopolitique, les cartes du monde sur RFI.
Géopolitique, suite de notre édition consacrée aujourd'hui à la défense et à la sécurité de la France après la publication du livre blanc en compagnie de Michel Rocard, qui fut Premier ministre de 1988 à 1991, et du général François Mermet, ancien directeur général de la DGSE, les services extérieurs de notre pays. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rappeler pourquoi vous étiez tellement favorable à la mise en chantier du PA2, du deuxième porte-avions français? Rappelons au passage que les Britanniques viennent d'annoncer la construction de deux nouveaux porte-avions qui doivent entrer en service en 2014 et 2016.
J'ai eu beaucoup à réfléchir sur cette question parce que c'est moi qui, comme Premier ministre, ai eu la charge de décider que, pour ce qui concerne le premier, celui qui s'appelle le Charles de Gaulle, on avait fini assez de papier, les études étaient faites, les plans étaient faits, l'outil était parfait et répondait à tout ce que tout le monde souhaitait, et puis il fallait décider si on le faisait ou non. C'est-à-dire qu'on passait d'une dépense de quelques par millions d'euros sur de la recherche à une dépense par milliard d'euros pour fabriquer un porte-avions et mettre des avions dessus. Il a fallu que je me demande à quoi ça sert. Et finalement, les deux réflexions qui m'ont conduit à prendre cette décision, c'est d'abord que la France garde des responsabilités largement mondiales à cause de ses dom-toms, à cause de la masse de ses émigrés dans beaucoup de pays en difficulté et à cause de sa présence dans beaucoup de conflits. Or, la tendance est à supprimer les bases terrestres qu'on a à l'étranger. Nous allons petit à petit quitter l'Afrique, et ça vaut mieux comme ça d'ailleurs. Et donc, notre proximité des terrains d'opération diminue. Nous allons perdre des bases terrestres. La réponse, c'est que les bases flottantes, elles, on les perd pas. Et donc, il faut en maintenir. De plus, un porte-avions est un outil fabuleux, extrêmement puissant.
De projection puissante.
De projection et de traitement de conflits à distance. C'est un navire, mais c'est un outil de combat terrestre à titre principal. Et qui permet de se rapprocher du type de conflits les plus fréquents aujourd'hui, qui ne sont pas les conflits internationaux entre puissances stratégiques. Dans les conflits internationaux entre puissances stratégiques, le porte-avions, il pèse pas. Il est tout de suite détruit parce qu'il est trop gros, trop important, trop visible et fragile. C'est pour les conflits de type secondaire, qu'il peut rester dominant. Je me souviens de l'amiral Le Pulloc, qui commandait le groupe aéronaval à l'époque, me disant, au fond, nous, les porte-avions, on est fait pour servir dans tous les conflits où l'Union soviétique n'est pas partie prenante. Ce qui était une phrase remarquable et qui soulignait que c'est le genre de conflit qui continue. La guerre froide, elle, elle est finie. Nous ne sommes plus en situation d'affrontement stratégique avec la Russie, la Chine et moins encore les États-Unis, mais nous avons toujours des problèmes graves au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique, éventuellement dans les Balkans et en tout cas en Afrique. Et là, le porte-avions est utile. Or, un porte-avions, c'est un prototype. Les constructeurs automobiles se gardent bien de vendre des prototypes. Ils les essayent pendant 3 ans et puis ils corrigent les erreurs de la définition. La marine n'a jamais eu la capacité d'expliquer au monde qu'elle fait naviguer un prototype et que donc il y a de la réparation fréquente. Plusieurs mois tous les 4 ou 5 ans et quelques semaines chaque année. Et donc, si on veut en avoir un de manière permanente, au lieu de faire passer le communiqué, messieurs les fauteurs de guerre civile sont priés d'attendre 4 mois, le Charles de Gaulle est parti en réparation. C'est idiot. Si on veut éviter ces situations, il nous en faut 2. Mais le problème, donc je maintiens que c'est tout à fait nécessaire, mais le problème c'est où prendre l'argent.
Voilà, c'est ce que la question récurrente et serpent de mer du livre blanc que j'allais vous poser, vous préconisez de ponctionner le budget de la défense nucléaire.
C'est une formulation un peu simple. Oui. Le vrai problème que le livre blanc n'a pas osé toucher, il ne pouvait pas, ce n'est pas une critique de ceux qui l'ont écrit, ils étaient sous des consignes politiques. Nous vivons maintenant un changement d'état du monde où en matière nucléaire, le vrai danger n'est pas le risque d'un conflit stratégique. La Chine n'a envie d'offenser personne et elle souligne beaucoup que son offensive commerciale se veut pacifique. Le vrai problème, c'est la prolifération. Et la prolifération, elle est non seulement le fait de quelques États voyous, mais elle est surtout le risque que des groupes non étatiques se saisissent de quelques grammes de matière nucléaire et avec 10 grammes de plutonium que vous faites exploser dans Paris autour d'une bombe à un gaz, vous rendez Paris inhabitable pour des dizaines d'années. Ça, c'est le vrai problème. Et c'est tellement le vrai problème que la lutte internationale, la coopération internationale contre les États voyous qui risqueraient de s'en servir et contre les groupes terroristes est une priorité maintenant absolue. Or, il n'y a pas de légitimité à interdire à, je ne sais pas moi, l'Iran, la Corée du Nord, nous avons l'arme nucléaire, mais pas vous, vous avez pas le droit. De quel droit ? Il n'y aura pas de légitimité au Conseil de sécurité pour faire ça. Et c'est ce qui a conduit un certain nombre de gens, dont Henry Kissinger, dont McNamara, dont Sam Nunn, le président pendant 15 ans de la Commission des Forces Armées du Sénat américain, dont George Shultz, ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis, dont encore William Perry, ancien secrétaire d'État à la guerre, à dire... il faut maintenant respecter le traité de non-prolifération et que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité mettent en place un plan d'éradication négociée, progressive, proportionnelle, mais d'éradication un jour totale de l'armement nucléaire. Et vous avez probablement repéré que le Premier ministre de Grande-Bretagne, Gordon Brown, a dit la même chose il y a 4 mois maintenant, dans une conférence de presse, ça se passait à Delhi, mais il l'a dit quand même. Et je suis persuadé de cette ligne. Nous avons besoin d'une légitimité internationale indiscutable dans le combat contre la prolifération, qui doit aller jusqu'à pouvoir frapper des nations ou surtout des équipements, des usines, voire faire tuer des hommes nominalement au cas de risque de terrorisme. cette légitimité passe par l'abandon du nucléaire. Si nous engageons cette voie, qui ne peut être que négociée, hein, je ne suis pas du tout sur la ligne du désarmement unilatéral, c'est complètement idiot. On me l'a fait dire, c'est complètement idiot. Si nous engageons cette ligne, alors on peut peut-être imaginer un programme d'économie suffisant.
Alors, pour justement, sur ce terrain-là, je me tourne vers le général Mermet, qui, outre la DGSE, a dirigé les centres d'expérimentation nucléaire. Alors, est-ce qu'on peut à la fois se payer le PA2 et ne pas ponctionner dans le budget nucléaire et conserver une crédibilité de dissuasion?
Là, je suis un peu moins optimiste que le Premier ministre sur l'évolution et un accord qu'on pourrait trouver en ce qui concerne la prolifération avec des pays comme la Chine, l'Inde, et puis le Pakistan et d'autres qui ont déjà et qui mettent un effort sur le nucléaire, en particulier quand on voit la Chine développer son programme de sous-marins nucléaires et également de porte-avions dans un deuxième temps, on a plutôt des raisons d'être pessimistes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le nucléaire donne à la France une stature, une position internationale qui fait qu'on est membre du Conseil de sécurité et que
membre
permanent du Conseil de sécurité, merci Richard de le souligner, et qui fait également que en Europe nous sommes un des seuls, avec les Britanniques, mais qui sont beaucoup plus dépendants des Américains que nous-mêmes dans le domaine du nucléaire. Donc, on ne peut pas baisser la garde sur le nucléaire. On a réduit déjà, d'ailleurs, la deuxième la composante aéroportée a été réduite, je crois que c'est ce qui est dans le livre blanc, et réduite d'environ un tiers. Il faut souligner d'ailleurs au passage que les avions étant polyvalents, ils peuvent être utilisés en conventionnel ou en nucléaire. Donc le coût, c'est simplement le missile lui-même. Donc des économies, on peut les chercher, peut-être dans les programmes. Je pense dans la gestion de ces grands programmes, on pourrait certainement faire des économies. Moi, je l'ai vécu à l'époque. Et également essayer de rechercher si tout ce que nous faisons est bien indispensable.
Alors, Michel Ancard, sur la question des économies et du financement, justement, de ces options de défense.
Moi, j'aime bien le propos du général Mermet. Je suis malheureusement plus pessimiste que lui. Je crois que sur la gestion, on peut économiser non pas du cutterie ou des bouts de chandelle, mais pas de quoi faire un deuxième porte-avions avec sa flotte aérienne. On est quand même à 4 à 5 milliards d'euros avec sa deuxième flotte aérienne. C'est donc tout à fait considérable. Mais je voudrais revenir sur la partie proprement nucléaire de ce que vient de dire le général. Il est très imprudent d'assimiler dans la même réflexion la Chine et le Pakistan. Pourquoi ? Parce que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. La Chine a 5000, 6000 ans d'histoire connue. Elle n'a jamais envahi personne, sauf son Alsace-Lorraine locale qui est le Vietnam. Mais en dehors de ça, elle n'a jamais envahi personne. Et je signale que depuis 10 ans que l'idée de l'abandon du nucléaire militaire est à l'ordre du jour, il y a eu beaucoup de conférences, celle de Canberra notamment, une à Boston il y a pas 2 mois, etc. J'ai participé à tout ce mouvement et j'ai toujours vu la Chine seule, seul des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, faire assister à ces conférences des ambassadeurs en fonction et mandatés. Vous conjuguez le fait que la Chine n'a pas l'habitude d'envahir, elle n'a jamais envahi personne. Ses intentions sont régionales d'une part et mondiales commercialement, mais pas militairement. Le Pakistan, lui, fait partie des cibles éventuelles, et c'est tout à fait autre chose. Quelle légitimité aurions-nous pour aller démolir les installations nucléaires du Pakistan si elles sont tombées entre les mains de fous religieux? Il nous faut... C'est ça le problème. Et pour traiter ce problème à ce niveau-là, il nous faut l'accord du Conseil de sécurité. On ne l'aura pas sans les Chinois. Or, les Chinois, eux, ont manifesté tous les signes qu'ils sont prêts à partir comme ça. De la même façon, Poutine réveille le militarisme, au fond, et l'autoritarisme russe, uniquement parce que quand le pacte de Varsovie a été dissous, nous n'avons pas dissous l'OTAN en France. Nous avons maintenu, dans les années 90 à 95, un environnement de méfiance et d'assiègement de la jeune démocratie russe au lieu de jouer la paix. Je rappelle que George Kennan avait écrit depuis ses 90 ans et depuis sa retraite, le plus grand des diplomates américains de l'après-guerre, que c'était la plus grande faute diplomatique de tout l'Occident depuis un demi-siècle. Et nous le payons maintenant. Mais la Russie demande probablement que d'arrêter de s'essouffler dans un effort militaire fou qui n'est lié qu'à la méfiance des autres. Et quand des autorités américaines, j'ai cité les noms tout à l'heure, importants, disent « le temps est venu de s'arrêter », faites attention qu'un président démocrate américain pourrait bien donner le signe qu'il va dans ce sens. Je suis persuadé que ce débat, on va l'ouvrir. Et c'est le débat sur l'arrêt concerté entre les 5. Vous avez eu le mot baisser la garde. Il n'est pas question de baisser la garde relativement aux grands. Il est question de faire ça ensemble. C'est pas du tout pareil. C'est pas...
Michel Ancard, général Mermet, merci. On se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal sur RFI.